Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi. Bien, chers frères, le commandement aujourd'hui qui nous est donné, vous l'avez entendu 10 fois, 20 fois, 100 fois peut-être, vous le savez, c'est la difficulté de l'Évangile, il faut pouvoir le réécouter à frais nouveaux. Essayons. Il s'agit toujours d'une controverse, et je ferai un petit préliminaire, une fois n'est pas coutume, un petit préliminaire, une introduction à mon homélie, car c'est ce combat perpétuel entre le Christ et les Sadducéens me fait penser à deux choses importantes. La première, c'est qu'il aurait très bien pu leur dire, et parce que ça nous arrive souvent, bon, de toute façon, vous ne cherchez pas la vérité, c'est juste pour me piéger, pour me poser une question. Hein. Il vient de fermer la bouche aux Sadducéens, la semaine dernière, c'était Dieu et l'argent, doit-on payer l'impôt, etc. Voilà, un autre piège aujourd'hui, c'est la suite. Bon, alors, quel est le plus grand commandement? Bon, est-ce qu'il est vraiment docteur en Israël, cet homme? Est-ce qu'il sait tout? Alors, on va voir si on ne peut pas trouver une chose trappe. Eh bien, le Seigneur, qui sait parfaitement que c'est un piège, l'évangéliste le rappelle, va répondre malgré tout. Et nous aussi, parfois, devant les questions du monde, qui ne sont pas toujours honnêtes, qui nous sont parfois posées de manière délibérément piégeuse, eh bien, il nous appartient de répondre. Il nous faut rendre compte de l'espérance qui est en nous, même quand ceux qui sont en face de nous ne sont pas honnêtes. Voilà, soyez sans cesse prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, car nous avons une théologie, c'est-à-dire nous avons un mot sur Dieu, quelque chose d'articulé, de raisonnable, qui peut se dire. Nous ne sommes pas simplement des croyants qui disons « Oh ben Dieu est Dieu, puis c'est tout, on n'en parle pas ». Eh bien si, parlons-en, discutons-en, nous pouvons étayer notre foi, nous pouvons en rendre compte. Logikeien, dit saint Pierre dans sa lettre. Et donc, il y a quelque chose d'articulé dans ce que nous croyons sans cesse. Nous pouvons le dire même à ceux qui ne sont pas croyants. Ça, c'était mon premier point d'introduction. Le deuxième, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la vérité. Parfois, dans ce monde, j'ai l'impression qu'on a tellement peur de la vérité qu'on ne veut surtout pas l'entendre. Combien de fois m'est-il arrivé d'entendre, soit directement, soit indirectement, des gens dire « Ah oui, non mais ça, il ne faut pas en parler parce que ça, c'est des questions de la foi. » Mais la question, moi je me fiche bien de savoir si quelque chose est une question de la foi ou pas de la foi. Moi, ce que je veux savoir, c'est si c'est vrai ou si c'est pas vrai, si ça marche ou si ça marche pas, si ça va me permettre de vivre ou pas de vivre. C'est ça la vraie question. Je me fiche bien de savoir à quelle catégorie appartient ma parole. Est-ce que là... Alors, c'est important de savoir diviser, parce que l'intelligence divise pour pouvoir mieux régner, bien entendu. Hein, c'est de là que vient l'expression, avant qu'elle soit pratique. Mais, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. N'ayez pas peur ni de la vérité, hein, n'ayez pas peur de la contradiction, n'ayez pas peur même de votre doute, n'ayez peur de rien, car la vérité, comme le dit le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium, s'impose d'elle-même. L'exposé de la vérité, voilà. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que ceux qui ne veulent pas y croire, hein, ont peur. Ont peur qu'on parle, ont peur qu'on en parle, des fois que ça serait vrai. Voilà. C'était mes deux préliminaires importants, parce que c'est le Christ qui nous enseigne, y compris, avant de ce qu'il dit, la manière dont il se comporte, qui est pour nous déjà un exemple. Alors voyons ces deux commandements, succinctement, évidemment, car il y a des bibliothèques qui ont été écrites sur ce sujet. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. D'abord, la question qui est posée, il y a une question d'un commandement, il y a une question d'une ordination, ou une taxinomie si vous voulez. D'abord, c'est plus clair, d'abord la question du commandement. Évidemment, si la question se pose, c'est parce que, vous le savez très bien, il y a 615 mitzvot dans l'Ancien Testament, et donc peut-être que parfois, effectivement, d'aucuns qui n'étaient pas assez savants dans la loi pouvaient peut-être un peu s'y perdre, mais c'est notre cas aussi. Nous avons toujours le risque, devant de multiples obligations, de multiples commandements, parfois nous ne savons plus très bien à qui donner de la tête, c'est-à-dire que doit-on respecter en premier, que dois-je faire, c'est dimanche, c'est la messe, mais je pourrais aller faire les courses pour ma voisine qui est impotente, Eh bien, voilà deux commandements qui s'opposent. Quel est le plus grand commandement, etc. Donc, voilà un peu la... Je simplifie à l'extrême, mais c'est la question qui se pose au Seigneur, enfin, qu'on lui pose. Alors, c'est quoi le plus grand, hein? Qu'est-ce qu'on va respecter en premier? Tout d'abord, hein, donc, il nous faut connaître, pour arriver à pénétrer la réponse du Seigneur, ce qu'il va essayer de mettre en exergue, c'est-à-dire ce qui fait vivre la loi, ce qui fait vivre toute la loi. Et c'est un commandement, ne l'oublions pas, hein, parce que dans ce texte, il y a quelque chose de... Non, pas d'affreux, parce que ça serait impie ce que je dirais, mais il y a quelque chose de dangereux, c'est qu'il y a le mot « amour » plusieurs fois. Hein. Et alors, vous savez, dès qu'on parle d'amour aux gens, c'est l'amour, alors, alors voilà, ça y est, et ils sont partis, ils n'écoutent plus rien. Mais il y a d'abord le mot « commandement », et il est répété trois fois, donc c'est peut-être important. Donc, c'est d'abord un mandement, c'est-à-dire quelque chose qu'on demande avec autorité. Vous ne pouvez pas passer à côté des commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu qui nous sont donnés pour que nous ayons la vie. J'espère que vous êtes ces chrétiens qui, dans le monde, répandent cette vérité que tout le monde a oubliée. « Oh, c'est des commandements, alors, bon, c'est pour nous embêter, c'est pour... » Non, c'est l'inverse, hein. C'est pour que nous puissions vivre. La morale, les lois, tous les commandements qui nous sont donnés ne sont pas pour nous empêcher de vivre, c'est pour nous donner de vivre. Premier commandement, quand vous prenez votre voiture, enfin en France, roulez à droite. C'est un ordre. Hein? Ben, ce n'est pas un ordre qui est fait pour... Ah ben moi, j'aimerais mieux rouler à gauche parce que... Bon, voilà. Oui, eh ben, tu vas avoir un accident. Hein? C'est pareil, tous les commandements sont de cette nature, hein, ou alors ils ne sont pas bons. Mais les commandements qui nous sont donnés pour que nous ayons la vie. C'est un commandement. Et c'est un commandement dont je suis capable. C'est-à-dire que, peut-être que ça, vous n'y avez jamais pensé, mais quand le Seigneur dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit », mais c'est incroyable. C'est incroyable que j'ai la capacité d'aimer Dieu. Moi, une simple créature, un pauvre mortel, une feuille dans le vent qui demain va s'étaler et pourrir, je suis capable d'aimer Dieu. Voilà ma grande noblesse, hein. Dans ce commandement qui m'est révélé, immédiatement on voit qu'un ordre n'est pas quelque chose qui nous contraint, c'est l'inverse, c'est une révélation divine incroyable. Oui, je suis capable d'aimer Dieu parce que Dieu l'a voulu. Dieu m'a créé capable de lui. Capax Dei, dit la théologie, je suis capable d'aimer Dieu, c'est-à-dire que mon ineffable et inadmissible noblesse vient de là. Je suis un être capable de Dieu et même capable de l'aimer. Alors, c'est le deuxième point de cette première partie, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le premier commandement, hein, le plus grand. Jeanne d'Arc, puisque nous sommes français, il faut la citer, Jeanne d'Arc le dit à son procès, elle à qui on le dit, mais alors vous n'obéissez pas, là vous n'avez pas obéi au roi, je ne sais pas, alors vous prétendez que vous servez le roi, puis là vous êtes... Mais sire Dieu, premier servi, la volonté de Dieu avant tout. Si Dieu est Dieu, ben, c'est évident que c'est la volonté de Dieu qui s'impose en premier. Hein. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, vous allez tomber dans des erreurs graves. Hein. Vous voyez bien où nous mène le matérialisme ambiant. Si Dieu n'est pas Dieu, alors ben, c'est la matière qui commande. C'est la matière, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Voilà. Ah mais c'est sûr. Comme dans tout mensonge, il y a une vérité, tu vas mourir. Et en plus, tu vas mourir de vie éternelle. Tu vas mourir éternellement. Alors, il faut manger et boire. Hein. Je crois que vous le savez, je ne suis pas un ascète triste, ce n'est pas la question. Mais mangeons et buvons. Même les épicuriens s'en étaient rendus compte. Hein. Même les vous savez que l'épicurisme arrive après un temps d'orgie incroyable à Rome. Et les épicuriens, qu'il ne faut pas réduire à ça, se sont rendus compte que... Enfin, parce que, comme les gens, vous avez, ah, les épicures, ça c'est bien, on va profiter. Oui, enfin, les épicuriens sont des ascètes, en fait. Hein. Les épicuriens ne boivent ni ne mangent. Hein. Ils ont découvert, parce qu'ils sont matérialistes, que la matière ne satisfaisant pas, le seul moyen, c'est de s'en détacher. C'est ça, hein, l'épicurisme, le vrai. Hein. Enfin, si vous lisez la philosophie, bien sûr. Hein. Pas si vous lisez les 7 jours. Donc... le matérialisme ne peut pas nous satisfaire. Aujourd'hui, nous sommes en pleine époque romaine de décadence. Hein, c'est l'orgie. Voilà, alors allons-y. Bon. Mais le monde va se rendre compte que ça ne peut pas lui procurer le bonheur. D'ailleurs, je crois qu'il s'en est déjà rendu compte. Hein. Il ne veut peut-être pas le dire encore, mais ça ne satisfait pas. Hein, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, parce que ça fait longtemps, vous avez peut-être oublié. Hein. Petit sondage en France, c'était l'année dernière, au septembre de l'année dernière, petit sondage en France, hein, pays quand même riche et repu, on a des pauvres, hein, il y a des pauvres dans la rue, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, c'est vrai, hein, mais grosso modo, la grande majorité des Français sont d'une richesse éhontée. Hein. Moi aussi, hein. Je mange, je bois 3 fois par jour, voilà. Je suis d'une richesse incroyable. Quand je suis malade, j'ai un médecin, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. 54% des Français disent qu'ils sont malheureux, qu'ils ne vivent pas la vie qu'ils vous auraient voulu. Ils sont tristes. Hein. Peut-être arrêtez de bouffer. Peut-être il y a quelque chose là. Peut-être vous avez trop. Hein. Parce que le même sondage au Bangladesh, hein, vous savez que je connais bien, j'y vais tous les ans. Cette année, c'était un voyage un peu terrible, mais enfin, c'est autre chose. Hein. Le même sondage avec des gens qui crèvent de faim, qui n'ont pas 3 fois par jour à manger, dont le premier souci est de savoir si les enfants vont pouvoir survivre. Est-ce qu'ils auront un demi-euro pour acheter, ou l'équivalent, une couverture cet hiver, hein? 60 ou 80% des Bengalais répondent qu'ils sont très heureux. Alors, le but n'est pas de crever la faim pour être heureux, c'est de nous rendre compte que qu'est-ce qui les rend heureux? Mais c'est pas la matière, c'est sûr. Hein. Peut-être qu'il y a autre chose, heureusement. Alors que leur détachement forcé les oblige, hein, à voir. Le matérialisme ne vous procurera pas le bonheur. Dieu seul doit être servi. Et alors, je passe parce que je vois que je suis un peu long, mais il y a d'autres erreurs. Hein. Si c'est pas le matérialisme, c'est les faux spiritualismes. Hein. Alors là, vous en avez à l'appel. Hein. Ça va du spiritualisme étatique... c'est-à-dire, alors soit c'est la race, soit c'est une idée particulière, etc. Et alors c'est ça qui va nous rendre heureux, hein. C'est pas Dieu, c'est l'immanentisme. Hein. Dieu, enfin, l'éternel se trouve dans la race. Et alors on pense à la race aryenne, mais malheureusement, cette petite idée s'est bien déclinée encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. En passant par toutes les purifications ethniques, je veux même pas les citer parce qu'il y en a tellement que je saurais plus où donner de la tête. Hein. Voilà, ce qui va nous rendre heureux, c'est que nous soyons de telle race et pas d'une autre. Bon, c'est que nous soyons de telle idée et pas d'une autre. Hein, alors, ça va du fascisme avec tous les... Voilà. J'en ai déjà donné pour le communisme, parce que c'est un matérialisme idéologique. Et puis, le dernier faux spiritualisme, qui est peut-être celui qui est le plus présent aujourd'hui, hein, ben c'est moi. C'est-à-dire qu'en moi, il y a quelque chose, effectivement, vous avez raison, monsieur l'abbé, il n'y a pas que de la matière en moi, il y a quelque chose de spirituel. D'ailleurs, c'est même ça, Dieu. Et voilà le faux humanisme dans lequel nous baignons, un espèce de prométhéisme qui croit que par ma grande puissance, ma grande intelligence, c'est ça qu'il va falloir sauver à tout prix. Et c'est une illusion parce que tout ça va s'écrouler. Voilà. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Rien ne peut échapper à cette totalité. Il n'y avait là rien de quoi surprendre un docteur de la loi. C'est ce que répètent les Juifs tous les jours. Schéma Israël, souviens-toi, le Seigneur ton Dieu, il t'a fait sortir d'Égypte, etc. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà. Ou vous aimez Dieu comme ça, ou vous n'aimez pas Dieu. Vous ne pouvez pas aimer Dieu le dimanche de 9h à 10h. Et puis, c'est pas possible. Hein. C'est de la blague. Hein. Donc, et dans ce cas-là, c'est pas la peine que je vienne. Donc, voilà. Vous pouvez acheter un pantin qui bougera quand vous le toucherez, et ça sera pareil. Mais non, mais ça, c'est voilà. Hein. Et donc, voilà. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et tout ton esprit. Et puis, évidemment, avec le Seigneur, c'est jamais fini. Il croit avoir sa réponse. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commandement lui est semblable. Alors, de nouveau, les complications. Vous croyez avoir un commandement, et puis en voilà deux, et en plus, il est semblable. Alors, il est bizarre, ce commandement. S'il y a des logiciens parmi vous, ils ont dû être choqués, hein, s'ils ont bien écouté, car si le Seigneur avait été en toute logique de sa prémisse, il aurait dû dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme tu aimes le Seigneur ton Dieu ». Voilà, c'est ça la logique. Or, il y a une rupture de logique, c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu » et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a comme un détour. C'est étonnant. Il y a un détour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que le Seigneur nous invite à de l'égoïsme, à une espèce de... Alors là, on va retomber dans les erreurs modernes, la satisfaction de moi-même, ma réalisation, mon... je sais pas quoi. Bon. Non, évidemment, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, pour aimer les autres en vérité, d'avoir une médiation. Et cette médiation, c'est les dons que Dieu a mis en vous-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même parce qu'il est comme toi-même. Et donc, si tu t'aimes toi-même, pas si tu t'aimes égoïstement comme on s'aime en se refermant sur soi, si tu aimes ce que Dieu a mis en toi, c'est-à-dire si tu aimes le don de Dieu qui est en toi, voilà comme ça, tu vas pouvoir aimer les autres. Vous voyez, ce n'est pas une illusion, hein, ce n'est pas un commandement comme ça en l'air, « Oh, bah, t'aimeras les autres. » Non. Tu aimeras les autres, en réalité, comme toi tu t'aimes. Parce que tu es vraiment un don de Dieu. Combien de gens n'arrivent pas à aimer parce qu'ils se trouvent mal aimables? C'est une des premières... La psychologie, parfois, aide, hein, mais il faut s'aimer. Hein. Il faut aimer le don... Parce que sinon, vous pouvez détester le fait que, je sais pas, vous n'avez plus beaucoup de cheveux. J'ai pensé ça parce que j'en ai vu un qui est entré devant moi, il avait des cheveux comme ça, derrière, avec un truc dedans. Alors, bon, moi j'ai pas de cheveux, bon, j'ai jamais pu faire ça. Bon. Et alors je peux me détester parce que j'ai pas de cheveux. Bon, je peux me détester parce que je suis pas assez grand, j'ai pris des choses physiques parce que c'est. Mais intérieurement, c'est pire. Hein. Eh bien, si je ne m'aime pas comme je suis, si je n'aime pas le don de Dieu que je suis, comment vais-je aimer les autres, hein? Selon une illusion? Non. Il faut que j'aime les autres à partir de moi, à partir de ce que je suis vraiment. Le don de Dieu que je suis, le don ineffable de Dieu, c'est ça qui est bon. C'est parce que j'existe. Et donc, les autres aussi existent. Et ils sont différents. Et le don qu'ils sont, voilà ce que je dois aimer. Alors, je finis tout simplement, c'est ton prochain que tu vas aimer, comme toi-même. Nous avons le mode d'emploi. Hein. Souvent, le Seigneur, dans l'Évangile, a dit, hein, vous ferez ceci en mémoire de moi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous avons un exemple, nous avons le Christ qui est notre législateur, c'est-à-dire il est la loi en lui-même. Hein. Là, ce qu'il a fait, nous allons le faire. Et ici, il nous dit que cette loi, elle se fait intérieure. Ce qui est bon pour moi est sûrement bon pour les autres. Ce qui n'est pas bon pour moi est sûrement pas bon pour les autres. Voilà, j'ai la critère en moi, j'ai la loi en moi, ma conscience va m'éclairer pour savoir quoi faire. Et les autres, c'est qui? Eh bien, c'est d'abord ceux qui ne sont pas moi, c'est un truisme, c'est-à-dire ceux qui me sont proches. Et là, je pointe une dernière petite erreur. On essaye toujours, mais l'esprit de l'homme est toujours en pleine dichotomie. Alors, est-ce que mon prochain, c'est d'abord celui qui est proche de moi? Et alors, vous avez les tenants, on va faire simple, même dans l'Église, hein, vous avez ceux qui sont plutôt conservateurs et qui disent, oui, le prochain, c'est d'abord celui qui est à côté de moi. Hein, il faut que je sois bon d'abord envers ma femme, mes enfants, et puis après, voilà, par cercle concentrique aux autres. Et puis, vous avez les autres, hein, qui sont plus progressistes, et ils disent, c'est pas vrai, hein. Mon prochain, parce que le Christ a dit, c'est celui dont je me fais proche, celui dont je m'approche. Donc, mon prochain, c'est celui qui est loin. Eh bien, les deux sont vrais. Les deux ne s'opposent pas. Il y a un ordre, c'est tout. Il y a une taxonomie, comme vous aimez d'abord Dieu, sinon vous allez vous tromper, matérialisme, faux spiritualisme, eh bien, vous allez d'abord aimer ceux qui vous sont proches, et ça va être le moyen d'aimer les autres. C'est parce que vous aimerez vos enfants, que vous aimerez les autres. Il me souvient finirai sur cette anecdote de Mère Teresa en train de quêter, comme elle le faisait tous les ans. Elle parcourait l'Europe pour quêter, parce que évidemment il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. Et voilà. Et elle recommandait toujours la chose suivante. Hein. Elle faisait évidemment un discours incroyable, etc. Les gens étaient sur les genoux. Et leur disait, maintenant que c'est le moment de donner, vous allez déjà commencer par penser à vos enfants, à vos époux, vos épouses, aux gens qui sont à votre porte, aux pauvres qui sont près de chez vous, et maintenant, s'il vous reste encore quelque chose, vous allez me donner à moi. Parce que ce n'est pas une excuse d'aimer les autres. Quel est ce père de famille qui serait bon envers tous les enfants du monde et qui n'aimerait pas les siens? Eh bien, c'est un mauvais père. Et d'ailleurs, il aurait du mal à aimer les autres, sauf illusion. Donc les deux ne s'opposent pas. Vous ne pouvez pas vous arrêter à celui qui est juste à côté de vous, parce que c'est que vous l'aimez de manière désordonnée, c'est que vous l'aimez pour vous. Si vous l'aimez pour lui, vous êtes déjà sorti de vous-même, et ça sera le moyen d'aimer les autres. Alors faites le bien que vous pouvez, faites le bien qui vous presse, car la charité de Dieu nous presse de voir en l'autre Dieu lui-même. Cette conjonction des deux commandements, évidemment, c'est une grande révélation, c'est la révélation de l'incarnation. Le Christ a pris ce chemin, il s'est fait homme pour pouvoir se révéler en nous et dans les autres. Eh bien, que ce commandement nous tienne aux entrailles et qu'il nous donne vraiment d'aimer en acte et en réalité ceux qui m'entourent et ceux qui me sont plus éloignés. Ainsi soit-il.